Bonsoir, c'est Fred dans l'émission Combien de temps encore sur CFM Radio. Alors aujourd'hui, on va recevoir Audrey Jougla, auteur de Profession animal de laboratoire. Elle a été diplômée de Sciences Po Paris, journaliste, avant de reprendre des études de philosophie. Elle est actuellement professeure de philosophie. On va parler donc de son livre Profession animal de laboratoire et du tout dernier livre qu'elle a coécrit avec Laurent Baheu, photographe animalier, qui s'intitule Animalité. Bonjour Audrey. Donc,
bonjour.
Voilà, moi je suis vraiment très très heureuse de pouvoir vous recevoir, de vous accueillir. J'ai lu votre livre, donc Profession animal de laboratoire, un peu après qu'il soit sorti. J'ai vraiment hésité parce que j'ai beaucoup de mal avec les vidéos, que ce soit des vidéos d'abattoir ou le peu qu'il y ait en expérimentation. Bon, je regarde pas, hein. Donc j'ai beaucoup hésité, j'ai des gens qui l'avaient lu, des amis qui m'ont dit que franchement je pouvais le lire. Voilà, donc je l'ai lu, on en reparlera. Je le recommande bien sûr à nos auditeurs parce que ça dévoile vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc on va essentiellement aborder effectivement le problème de l'expérimentation animale. Mais on parlera aussi du deuxième ouvrage qui vient de sortir en collaboration avec Laurent Baheu, un photographe animalier, et qui s'appelle donc Animalité. Voilà. Alors le problème de l'expérimentation animale, c'est avant tout un problème moral. Et après, je vous laisse la parole, mais je voudrais juste citer quelques extraits de votre propre livre, Profession animale de laboratoire, où vraiment vous mettez en avant ce problème essentiel du problème moral. Alors, la réalité de l'expérimentation animale, c'est la culpabilité de certains animaliers et les non-dits de certains chercheurs. Ce sont des rongeurs aux yeux abîmés par les produits et la folie de l'isolement par certains singes. La réalité de l'expérimentation animale, c'est la nausée que j'avais en rentrant chez moi, mes cauchemars et la colère des militants. On exige souvent des militants une parfaite connaissance des chiffres et de la réalité, et gare à vous si vous ne pouvez pas répondre aux questions en données chiffrées ou statistiques. Or, j'ai compris avec cette enquête que faire reposer le débat sur des chiffres est utile à l'industrie, que ce soit celle de la viande ou de la pharmacie. Ce type de débat permet d'éviter de remettre en question une pratique dont bien des interlocuteurs sont conscients qu'elle est moralement indéfendable. Et page 191. L'intérêt n'est pourtant pas de savoir qui a tort ou qui a raison, dans quelle mesure le modèle animal reste pertinent pour certains protocoles et non pour d'autres, dans quelle mesure la recherche fondamentale ou la énième expérience sur une nouvelle espèce peut valoir la souffrance infligée. C'est avant tout un problème moral. Voilà. Donc, alors, le cadre de votre premier ouvrage, ça s'est passé comment? Et voilà, comment vous ressortez? Enfin, moi, je vous admire. Voilà. Comment on ressort de là, quoi?
Alors, je pense que la question, c'est plutôt avant ça, c'est comment on y rentre?
Oui, oui.
Déjà. Oui. Parce que c'est vrai que cette question, à la base, elle m'intéressait pour deux raisons. D'abord parce qu'elle était vraiment délaissée dans la cause animale, c'est-à-dire que cette question-là, on en a beaucoup parlé dans les années 80 et 90. Et ensuite, la question de l'expérimentation animale, elle a été complètement mise de côté et délaissée au profit d'autres chapitres de la cause animale, hein. Et c'est vrai que je m'interrogeais sur le fait qu'on en parle si peu. Et la deuxième raison, c'est que je m'interrogeais aussi sur le fait que finalement, parmi les militants ou les bénévoles d'associations que je côtoyais, personne n'était jamais allé dans les laboratoires. Donc, finalement, je trouvais ça intéressant de questionner ce sujet qui était un petit peu délaissé et surtout ces lieux où les militants n'avaient pas accès, hein, et on peut comprendre légitimement pourquoi. Mais surtout, je me demandais d'autant plus quelle était la réalité des expériences sur les animaux aujourd'hui en France. Parce que on avait finalement très peu de représentation de ce qui se faisait dans les laboratoires. Et enfin, la troisième raison, c'est que c'est un sujet qui est très compliqué aussi bien au niveau scientifique qu'au niveau moral. Et la complexité du sujet, moi, m'intéressait. Parce que en fait, on se rend compte assez vite que ce sujet-là ne permet pas qu'on fasse des amalgames. On peut absolument pas généraliser. À chaque fois, il s'agit de cas précis, de protocoles précis, de cas particuliers, et donc c'est très difficile de mettre une seule réalité sous le terme d'expérimentation animale, parce qu'il y a vraiment des choses extrêmement diverses et variées que ce terme-là recouvre. Donc, pour toutes ces raisons, c'était à la base, c'était vraiment quelque chose. Enfin, c'était un projet qui me tenait à cœur aussi dans la réflexion que ça met dans l'intérêt du sujet en lui-même. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et ensuite, parce que je pensais que c'était aussi nécessaire de faire ce travail d'enquête et ce travail justement d'immersion dans un milieu qui est plutôt hostile, en fait.
Et alors moi, je suis entièrement d'accord avec vous quand voilà, c'est vraiment au niveau des différentes, des différents combats, je dirais, concernant la cause animale, c'est vrai que le problème de l'expérimentation animale, on a l'impression qu'il est à part, que on en parle moins que les autres problèmes qui sont tout aussi importants, hein, mais on en parle moins. Alors, est-ce que c'est justement parce qu'il est très difficile d'accéder et d'avoir des témoignages directs? Je crois aussi qu'il y a un gros problème, c'est cette notion d'utilité qui fausse le problème, parce que comme c'est utile, voilà, on en parle un peu moins parce qu'il va y avoir l'argument d'utilité. Ça, donc, alors moi, pour moi, il n'est pas valable, hein. Mais voilà, donc il y a tout un. Alors d'après vous, pourquoi c'est mis de côté justement? Pourquoi et encore maintenant, hein, on en parle quand même. C'est toujours un. Il est moins enfin, c'est pas qu'il est moins revendiqué, mais on en parle moins, on le met moins en avant.
Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment le dernier bastion de souffrance animale. Je pense que c'est le plus difficile à remettre en question, parce que c'est finalement assez confortable comme position quand on comprend que nous, en tant que citoyens, en tant que personnes particulières, on peut avoir finalement des choix simples à faire. Par exemple, il est assez confortable de dire qu'il suffit de ne pas aller dans un aquarium pour ne pas encourager la captivité des animaux marins, ou quand on peut se dire qu'il suffit de ne pas manger de viande ou de ne pas pour ne pas cautionner ça. Et finalement, ça, c'est des choix individuels qui sont relativement faciles à mettre en application. Alors que sur la santé, ça fait extrêmement peur de se positionner là-dessus. Déjà parce qu'on se sent absolument pas légitime à en parler n'étant pas scientifique. Et ça, c'est une des questions que j'aborde assez longuement dans mon livre. Sur ce problème de débat moral qui n'a pas lieu parce qu'il est court-circuité par un débat scientifique, en fait. Et on empêche finalement de réfléchir à ce sujet-là en le confisquant, en fait. Et c'est aussi ce que dénonce Bruno Latour quand il parle de technocratie invasive, hein, sur des sujets qui nous concernent tous, mais qui sont confisqués finalement par une expertise, et qui fait que le débat n'est plus possible. Et je pense en fait que ce sujet-là, c'est exactement ça, c'est-à-dire que comme c'est un sujet qui est scientifique, On incite forcément le grand public à se taire et à ne pas avoir un droit de regard sur ce qui est le domaine de la science, alors qu'en fait, il y a tout un tas de problématiques qui sont des problématiques purement éthiques et morales. Et donc qui n'ont pas, enfin qui ne doivent pas être confisqués à ce titre-là. Et ça, faut bien le comprendre parce que finalement, c'était aussi, à mon sens, toute la difficulté de l'exercice, c'est-à-dire se questionner sur un sujet sur lequel on n'est de toute façon pas légitime à partir du moment où on n'est pas expert de ce domaine-là et à partir du moment où on va tout le temps nous renvoyer à ce manque de légitimité. Et pourtant, le débat moral, le problème moral, il a rien de scientifique. C'est un autre domaine en fait.
Tout à fait. Ouais. Et moi, je pense c'est pour ça que j'essaye toujours de remettre en avant le fait que c'est avant tout un problème moral. Il existe des méthodes de substitution, tant mieux. Mais je dirais que c'est même le problème, il est moral. C'est que voilà, il y a une voilà. Donc et c'est important de ce mot de confisquer, parce qu'effectivement, on confisque le domaine scientifique confisque un problème qui n'appartient, qui ne lui a, c'est pas un domaine, ça appartient pas au domaine scientifique en fait, l'expérimentation animale dans son fondement. Ce qu'on fait subir aux animaux, c'est pas du domaine scientifique, c'est uniquement du domaine moral. Enfin, le problème, il est moral.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le fait que, en plus, en tant que particulier, on n'ait pas de levier d'action dessus, c'est-à-dire que à part sur les cosmétiques ou sur les produits d'entretien ménager, sur lesquels on peut faire attention justement sur nos achats, à essayer d'encourager des marques qui vont se positionner contre les tests sur les animaux, qui vont justement non testé sur les animaux, à part ces petites actions-là, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un aspect qui est très, très décourageant pour le grand public. Cette impression de ne pas pouvoir faire grand-chose, en fait.
Alors, quand on est sur le terrain, quand vous avez décidé d'aller... comment on fait, comment on s'y prend, comment on se positionne par rapport à tout ce qu'on subit, je dirais.
Alors, il y a déjà en fait quelque chose qui est très particulier, qui est le fait de filmer en caméra cachée. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Et je me rendais absolument pas compte du stress que ça générait en fait de faire ça. Et finalement, pour en avoir longuement parlé après avec d'autres militants comme Sébastien Arsac de L214 qui l'a fait aussi lui-même, qui l'a beaucoup fait aussi. C'est vrai que finalement, on est focalisé sur cet aspect-là technique en fait. Et tant mieux. C'est-à-dire que en fait, quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je filme, parce que la caméra est arrivée en milieu d'enquête, j'avais déjà été plusieurs fois dans les laboratoires pas du tout équipée. Et en fait, je me suis dit, il faut absolument que je filme, il faut absolument que je puisse m'équiper pour enregistrer tout ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a en fait ce recours à la technique, c'est complètement différent parce que déjà on est complètement y a une adrénaline qui est vraiment très forte à cause du matériel, parce que moi j'avais extrêmement peur que ça bip, qu'il y ait un câble qui dépasse, que ça se voit,
que ça se déplace, il y a pas mal de passages, vous dites faut que je passe, il faut que voilà,
ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très stressant. Et en fait, on est vraiment focalisé là-dessus. Et après, on se focalise vraiment sur le fait de pouvoir correctement filmé. Et ça, c'est aussi, on s'en rend pas compte, mais moi, j'étais équipée d'une caméra qui était quand même, qui bougeait beaucoup en fait. Et plusieurs fois, j'ai filmé des journées entières des choses qui étaient inexploitables parce que j'avais filmé le sol ou le plafond ou finalement la caméra avait été cachée par un pli du tissu de ma blouse. Et donc ça, c'est vraiment des détails qui peuvent paraître anodins, mais en fait, quand on le fait, on est vraiment focalisé là-dessus, et tant mieux, parce qu'en fait ça permet de contenir beaucoup de choses et de justement pas du tout être dans l'émotion. C'est-à-dire que moi, j'étais pas dans l'émotion quand j'étais dans les laboratoires, pas du tout. C'est après que ça vient en fait. C'est vraiment dans un second temps. Mais quand on y est, on n'a pas du tout on est plongé dans autre chose en fait. Et sur l'utilité de ce qu'on peut faire éventuellement, sur le sens que ça a, pourquoi on fait ça, voilà. Donc c'est plus après que être beaucoup plus habité par ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu. Voilà.
D'accord. Alors, on va juste faire une petite pause musicale et on reprend l'entretien. Vous êtes bien sur CFM Radio. On reprend notre entretien avec Audrey Jougla, auteure de Profession animal de laboratoire et animalité. Là, on est vraiment sur le premier bouquin. Au niveau de la démarche, moi, j'ai vraiment apprécié ce votre livre parce que ça m'a fait penser à j'avais vu un film qui s'appelait Cœur, gorge, ventre sur c'était sur les abattoirs. J'y étais avec beaucoup d'appréhension et on m'avait dit non, tu peux y aller, et en fait ce film était très très efficace parce qu'il était on filme les animaux, on filme des visages d'animaux qui attendent, en fait, qui sont déjà dans l'abattoir mais qui attendent. Donc il est très oppressant parce qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a des portes qui se referment. Et je fais un parallèle avec votre livre parce que votre livre, c'est pareil. Je l'ai commencé avec beaucoup d'appréhension. On m'avait dit que non, je pouvais le lire. Mais j'ai eu la même sensation. C'est-à-dire que c'est une grande efficacité dans la mesure où on peut le lire. Mais alors, il y a des passages, notamment dans les sous-sols. Quand vous avez accès au sous-sol des singes, ça m'a rappelé le film. C'est terriblement oppressant. Et il n'y a pas de scène d'expérimentation, il n'y a pas de description à ce moment-là. Mais alors, c'est voilà, moi, le film, j'ai failli sortir plusieurs fois, tellement c'était oppressant. Le livre, je me suis dit, bon, j'arrête, je continue, je... Voilà, parce que vous avez su créer l'impact de ce qu'on ressent quand on est dans ces sous-sols et de ce de ce qu'ils ressentent eux aussi. Voilà, de savoir que tous les jours on les amène parce que ça dure longtemps les expériences sur certains. C'est pas
Oui. Tout à fait. Alors c'est important de ce que vous dites parce que c'est vrai que ce type d'ouvrage c'est complètement à l'inverse de toute démarche commerciale qui consisterait à séduire le grand public. C'est un sujet qui justement fait très peur et c'est vrai que la crainte sur ce type de sujet, c'est évidemment que on s'efforce de faire une enquête, de faire d'écrire un livre, etc. Tout le monde nous dit que c'est bien et au final, une grande majorité de personnes qui sont sensibles à ce sujet-là ne veulent pas lire le livre parce que justement elles ont peur en fait de se confronter à quelque chose qui serait cauchemardesque ou qui serait terrifiant. Et c'est vrai que ce qui est vraiment difficile, enfin c'est une gageure, hein, mais ce qui est vraiment difficile, c'est de réussir en fait à retranscrire à la fois une enquête, une expérience du vécu avec tout ce que ça peut comporter de charges émotionnelles, de ressentis, d'émotions, etc. Et ça, je pense que c'était important de ne pas justement l'évacuer et je voulais pas faire un essai qui soit froid et distancié sur ce sujet-là puisque ça me paraissait justement important. Enfin, ça me paraissait important de retranscrire l'expérience de ça. Enfin, là, pour le coup, vraiment le vécu personnel. Et en même temps, il faut pas non plus horrifier le lecteur. Et c'est vrai que le but du livre, c'est pas ça. Et c'est important d'insister là-dessus parce que moi, il n'y a rien de plus, finalement, qui me déçoit le plus ou qui me chagrine le plus que des gens qui me disent « Merci d'avoir fait ça, mais je le lirai pas. » Parce que c'est vrai qu'on se dit « Ben non, si j'ai fait tout ça, c'est pour que ce soit lu, parce que justement, vous allez apprendre des choses, parce que justement, il y a sûrement une sincérité et une curiosité sur ce sujet-là qui fera écho à la vôtre. Et il y a aussi beaucoup d'informations et beaucoup de données que sûrement vous ne connaissez pas sur le sujet. Et à ce seul titre, c'est important déjà de savoir qu'on peut se poser toutes ces questions-là sur ce sujet-là, que les réponses à ces questions-là venant de tel ou tel interlocuteur, c'est ça, que du coup, ça amène telle et telle autre question, que... Et tout ça, c'est vraiment une démarche interrogative, en fait, qui est vraiment pas dans de l'ordre du récit cauchemardesque, en fait.
Non, puis créer l'impact, donc, en fait. C'est important. Créer l'impact. Oui. Parce que c'est vrai que souvent, les gens vous répondent, mais l'expérimentation animale, ça n'existe plus. Si, ça existe toujours. Et ou alors, si c'est... Là, il y a un impact, c'est-à-dire qu'il y a la démarche purement philosophique ou explicative, mais là il y a une autre dimension qui fait que j'espère que les gens qui sont pas du tout sensibles à ce sujet, qui vont lire ça par curiosité, il y aura un réel impact, affectif. Enfin, il faut qu'il y a des gens qui vont être uniquement sensibles à l'aspect intellectuel, philosophique. Mais c'est pas suffisant, souvent. S'il n'y a pas un autre impact plus qui va toucher peut-être une autre fibre. Et là, je crois que dans ce livre, il y a une autre fibre qui est touchée.
Oui, merci de le préciser parce que c'est vrai que c'était un peu, en tout cas, c'était un peu un défi pour moi de réussir à avoir à la fois des données et du factuel et justement de l'enquête et des questions qu'on se pose et de la démarche et de la réflexion et des interlocuteurs, etc., mais aussi d'avoir cette dimension là qui est finalement très personnelle parce que c'est aussi pour ça que je voulais un peu embarquer le lecteur dans l'enquête et dans finalement toutes les étapes par lesquelles on passe, parce que c'est vrai que quand j'ai débuté ce travail-là, j'avais plein de questions ouvertes, j'avais pas forcément les réponses, il y avait des choses dont j'étais convaincue, dont j'ai douté par la suite, et vice-versa, des choses dont je doutais, dont finalement j'ai été convaincue après, et c'est vrai que c'est aussi une remise en question et un travail de pensée en acte. C'est pas seulement un exposé de thématiques ou comme on pourrait le penser. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler, je pense, parce que je sais que le sujet, enfin, je sais combien le sujet peut faire peur. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de lire un livre sur les expériences sur les animaux. Pour autant, au-delà de ça, c'est aussi un livre sur la condition animale.
Oui. Et puis le fait que vous voilà, ce qui est important, c'est que vous réattribuez à chacun le fait que c'est pas les scientifiques n'ont pas le droit de décider de quelque chose qui appartient. Enfin, on est dans le domaine moral et ça c'est important parce que ça vous en reparlez toujours en nuance, mais ça revient. Voilà.
Oui.
Et ça c'est ce qu'on disait au début de l'émission. C'est on peut pas se laisser confisquer. Quelque chose qui, je dirais, mais carrément n'est même pas du domaine scientifique par rapport à la pratique exercée. Et ça, c'est aussi mis en valeur dans ce livre, et je crois que c'est important que les gens se réapproprient, le sens critique, en fait, de ce qui se passe dans les labos, quoi, qu'on est sur de la souffrance, pure et simple. Enfin, vous dire, faut appeler les choses par leur nom, à un moment donné. On est vraiment sur de la souffrance. Non, de quel droit ? Voilà. Pour moi, il y a aucun droit d'infliger une souffrance à un autre être vivant, quel que soit le prétexte invoqué. Donc voilà. Donc je crois que c'est ça, c'est bien de le et ces constats, voilà, vous en reparlez, voilà, et ça reste une enquête. C'est ça qui est important. Et c'est ce que vous disiez, ça reste une enquête, mais avec vraiment des problèmes et des questions soulevées et soulignées.
Oui, et puis une progression, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, dans chaque chapitre, il y a plusieurs questions qui sont abordées, et c'est vrai que c'est pas un pamphlet qui va justement radoter ou répéter c'est pas bien de faire du mal aux animaux. Ça n'aurait aucun intérêt d'écrire un essai de cette teneur-là. Donc, c'est vrai que, justement, en préparant cette émission, j'ai relu quelques extraits, et c'est vrai qu'il y a des questions qui sont des questions qui vont bien au-delà de la seule souffrance animale qui sont posées, comme le rapport à la mort, comme le rapport à la toute-puissance de la science, comme le rapport à la promesse aussi que fait la science aujourd'hui. Et ça, c'est des questions en fait d'épistémologie, donc des questions qu'on se pose en philosophie des sciences, qui sont très intéressantes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit encore plus avec la pandémie, aujourd'hui, le rôle tenu par la science, c'est celui de la promesse, c'est l'incarnation de la promesse, c'est-à-dire la promesse que la science va résoudre les limites auxquelles l'être humain est confronté. Et c'est là où on voit justement qu'il y a des questions fondamentales qui vont au-delà du seul sujet de la souffrance animale, de même sur l'histoire de la médecine. Moi, cette enquête-là, elle m'a permis de regarder des points sur l'histoire médicale que j'ignorais complètement, l'histoire de l'expérimentation humaine aussi sur les humains, l'histoire de toute expérimentation médicale et toute l'histoire de la médecine. Et c'est vrai que pour vraiment comprendre ce sujet, en fait, on est obligé de mobiliser des domaines qui sont très différents et qui ne relèvent pas du seul militantisme. Donc c'est aussi ça que je voulais en fait insuffler dans ce livre et montrer que c'était un sujet complexe et que ça touchait surtout à des questions qui sont celles évidemment de la santé, de la mortalité, mais aussi du pouvoir de l'homme, de l'histoire de la médecine, des raisons d'être de la médecine et aussi de ce qui fait la logique pharmaceutique aujourd'hui au niveau international. Donc il y a vraiment plein de domaines là-dessus.
Alors, on va faire juste une pause. On fait une pause musicale et on reprend tout de suite après.
objects are in the boxes, and the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red, and the wind whispers clearly. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very.
Vous êtes bien sur CFM Radio. On reprend notre entretien avec Audrey Jougla, notre invitée d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez noté, une évolution positive pour les animaux? C'est-à-dire, est-ce qu'on va vraiment vers une abolition totale de l'expérimentation animale? Alors, je sais que vous avez également une association qui s'appelle Animal Testing. Je pense qu'on peut en parler parce que c'est important que nos auditeurs la connaissent. Alors, ça consiste en des investigations. Est-ce que vous notez une évolution positive vers une abolition de l'expérimentation animale ou voilà, où est-ce qu'on en est en fait?
Alors nous ce qu'on note c'est clairement une prise de conscience. En général, hein, sur la condition animale, ça, je pense que il y a un consensus général là-dessus sur le fait que aussi bien hein, sur des thématiques comme l'alimentation, la corrida, la chasse, etc., il y a vraiment une prise de conscience et une amélioration quelque part de la sensibilité du grand public par rapport à la condition animale, et aussi par exemple le projet de référendum pour les animaux qui peut voir le jour, ça c'est complètement nouveau, ça aurait été impensable il y a quelques années. Donc c'est vrai qu'il y a des initiatives hein, qui permettent de mesurer ça. Et aussi, alors au niveau de l'expérimentation animale, il y a quand même une volonté. Nous, on a pu participer à plusieurs colloques politiques et aussi européens, justement avec l'association, qui s'intéressait hein, à l'amélioration du bien-être animal au niveau global ou européen, par exemple, mais aussi à l'amélioration du développement des méthodes dites substitutives, sachant que pour l'instant en France il y a aucun budget qui est alloué à ces méthodes-là. Donc il y a énormément de progrès à faire là-dessus. On part vraiment de rien du tout. Ça c'est évident.
Est-ce que c'est propre à la France, le manque de crédit? Parce que s'il y a une volonté, est-ce qu'il y a une réelle volonté au niveau européen de développer ces méthodes dites de substitution, qui devraient être les seules, mais bon, dites de substitution, s'il y a une réelle volonté au niveau européen, est-ce que c'est propre à la France, ce manque de crédit total par rapport
Il y a des budgets qui sont alloués dans d'autres pays européens, mais ça reste quand même très faible. C'est-à-dire que on a finalement l'organisme qui s'occupe de valider ces méthodes-là, qui est l'EGVAM, c'est un organisme qui en valide très peu, parce que c'est très lent et dans le développement et dans la validation et dans le financement, etc. Mais il y a un projet de création d'un centre, donc ça, c'est ce qu'on va suivre parce que ça a été annoncé par le gouvernement. Il y a le projet de création d'un centre, justement, de recherche sur les méthodes alternatives. Et c'est quelque chose qui était réclamé vraiment par les associations depuis très longtemps.
Qui regrouperait un peu, parce qu'en fait, qui regrouperait vraiment une recherche uniquement sur des méthodes... Ouais, d'accord.
C'est ça. C'est-à-dire, alors, ce serait pas un centre de recherche, ce serait vraiment un centre de développement, méthodes de développement de ces méthodes-là. Et c'est vrai que pour l'instant, en fait, on le voit bien, les méthodes alternatives aux animaux qui marchent, en fait, ce sont des méthodes qui sont développées par des start-up ou par des entreprises, donc des financements privés et des acteurs privés. Donc, c'est pas du tout la recherche publique, c'est pas du tout l'État. Et en fait, celles qui sont commercialisées, qui marchent, qui sont validées, etc., c'est bien plus le fait de start-up ou d'organismes privés. C'est très bien aussi, mais on voit bien que sur le panorama économique, en fait, il n'y avait pas encore ce centre qui a été annoncé. Donc ça, c'est par exemple une très bonne nouvelle et c'est quelque chose qui marque vraiment un progrès sur la manière de substituer justement les animaux dans les expériences. Après, pour ce qui est de l'association Animal Testing, nous on est un petit peu désolés par les témoignages qu'on a, c'est-à-dire que assez régulièrement on est contacté par des gens qui sont dans les laboratoires qui veulent témoigner, qui nous expliquent ce dont ils sont témoins, ou qui nous expliquent ce qui ne va pas, ou qui nous expliquent pourquoi est-ce qu'ils nous ont contactés, etc. Donc là, c'est toujours des choses qui sont assez douloureuses. Au-delà des expériences, c'est vraiment c'est des gens qui travaillent. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire, c'est pas des militants de la cause animale. C'est des gens qui travaillent dans les laboratoires, qui sont soit animaliers, soit chercheurs, soit qui ont d'autres fonctions annexes dans les laboratoires et qui sont témoins de certaines pratiques qui sont jugées déviantes. Et donc ils nous contactent, et le problème c'est que c'est très rare qu'on puisse parvenir à filmer, à obtenir des vidéos ou même des photos. Donc très souvent en fait ces témoignages-là, nous on les garde, on les enregistre, mais il y a très peu de suite à donner face à ça, parce que finalement on ne parvient pas à obtenir des vidéos ou des photos, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, nous permet d'avoir aussi un certain baromètre par rapport à ce qui ne va pas dans les laboratoires aujourd'hui en France. Donc, c'est aussi le but de l'association.
D'accord. Donc là, pour l'instant, l'association, donc Animal Testing, on peut être adhérent, on peut...
Tout à fait. Alors, surtout, nous, on précise toujours bien, on est tous bénévoles. Donc vraiment on n'a pas pour l'instant, peut-être qu'un jour ce sera le cas, mais pour l'instant on n'a pas de salariés, on n'a pas de personnes qui travaillent pour nous à temps plein. C'est que on est une toute petite équipe de bénévoles et on fait ça sur notre temps libre, et c'est vrai que on fait ça du mieux qu'on peut avec des moyens qui sont dérisoires par rapport à ce qu'on essaie de faire. C'est-à-dire que c'est assez surprenant. Cette année, par exemple, on a réussi à sortir une enquête sur le transport des animaux de laboratoire. Mmh. Et donc, sur la manière dont les animaux de laboratoire étaient transportés par avion, en l'occurrence donc des poissons, des serpents, des singes, qui étaient transportés donc par avion sur des trajets qui sont extrêmement longs, parce qu'en fait c'est des animaux qui sont transportés par la compagnie Air France, et donc en fait Air France fait escale à Paris, ou en tout cas nécessairement il passe par Paris, et souvent c'est des animaux qui font le tour du monde en fait, parce que ils viennent de Madagascar, de l'Afrique du Sud, d'Asie, etc. Et par exemple ils vont aux États-Unis, mais ils vont faire escale à Paris et avant de donc ils enchaînent plusieurs longs courriers en fait. Dans des conditions qui sont pas souhaitables. Et puis au-delà de des conditions même de transport, c'est aussi mettre en lumière le fait que il y a quand même notre compagnie nationale qui transporte les animaux de laboratoire. Ouais. Ça faut le savoir aussi. Ouais. C'est une chaîne d'acteurs. Hein. Ouais. C'est aussi ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Hein. C'est pas que des laboratoires. Hein. Ça marche pas comme ça. Il y a tout un tas d'acteurs. C'est une chaîne hein, de responsabilité partagée.
On fait une pause musicale et on reprend tout à l'heure.
Every day, just to drive to my baby. From 10-6 months each day, 'cause I drive my baby.
Donc vous êtes bien sur CFM Radio. On reprend notre entretien avec Audrey Jougla. Et on va parler d'un autre ouvrage que vous venez de sortir avec Laurent Baheu, un photographe animalier. où là l'optique est vraiment c'est vraiment de, alors c'est des photos, hein, il y a 12 thématiques. C'est des photos d'animaux, qui sont magnifiques en noir et blanc, avec des textes, soit des textes de vous, je pense, soit des extraits d'auteurs ou de philosophes.
Oui, tout à fait. Oui.
Et alors, il y a une phrase qui est importante, je pense, par rapport à l'optique de cet ouvrage. Plutôt que d'indigner nos lecteurs en agitant la violence subie par les animaux, nous avons privilégié un parti pris esthétique, montrer le beau pour combattre le laid. Ça, je trouve ça magnifique. Alors, il y a Vincent Munier aussi, qui est beaucoup dans cette optique, qui estime que, voilà, montrer un peu le beau pour que, peut-être que ça va inspirer un peu l'espèce humaine de voir du beau.
Mais alors, c'est très intéressant parce que justement, enfin, il y a une discipline en philosophie que j'aime beaucoup qui s'appelle l'esthétique. C'est la discipline qui réfléchit, notamment à la beauté, au beau, aussi à l'art, à la création. Et c'est vrai que ça correspondait à la démarche de Laurent, justement, de ne pas, en fait, on sature aussi des atrocités qu'on voit tout le temps, quel que soit le sujet. Et c'est vrai que sa démarche à lui, elle est de montrer des animaux qui sont justement dans leur beauté la plus parfaite et dans leur perfection animale la plus forte.
Ouais.
Exactement. Et aussi parce que ce sont des animaux libres. Et c'est ça qu'il faut rappeler, c'est-à-dire que les animaux que photographie justement Laurent Baheux, ce sont pas des lions de cirque, ce sont pas des ours polaires dans des zoos, ce sont pas des animaux qui sont en captivité. Donc c'est des animaux qui sont libres et qui sont photographiés dans leur environnement naturel et sauvage. Et ça, c'est très important parce que le travail qu'il fait, c'est finalement un travail qui permet de montrer la beauté de ces animaux. Et moi, je voulais permettre de faire écho à ça et d'avoir la photographie, mais aussi des textes qui permettent de réfléchir à différentes thématiques sur la cause animale. Et donc, on en a retenu 12, comme le sous-titre m'indique. On a retenu 12 thématiques qui permettent de réfléchir, en tout cas, à la cause animale, avec soit des citations ou des extraits de la littérature, et donc d'écrivains qui se sont aussi posé ces questions-là, soit des textes que j'ai moi-même écrits pour aussi faire référence, faire écho aux photos de Laurent, mais avec une réflexion. C'était vraiment ça le but, et que ce soit surtout grand public, c'est-à-dire que ça puisse intéresser les enfants, que ça puisse plaire à des familles, que ça puisse justement montrer l'animal sauvage avec aussi des photos qui sont drôles, qui sont amusantes, il y a des postures, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très esthétique dans la démarche.
Et puis voilà, c'est vraiment, enfin moi je trouve cette phrase vraiment importante, c'est vraiment montrer le beau pour combattre le laid. Je trouve que c'est vraiment important.
Oui.
C'est
tout à fait.
Voilà, un peu c'est une autre voilà, c'est une autre optique.
Oui.
Et je pense que la démarche artistique, alors soit violente pour avec un impact violent, soit au contraire violente,
oui,
mais dans le beau.
Oui,
avec une violence,
oui,
dans le beau, mais la démarche artistique, elle est voilà, très importante, parce que là, je pense qu'elle touche elle va toucher les personnes en profondeur. Ça dépasse l'intellect, en fait. Donc je pense que c'est peut-être la démarche la plus comment dire, qui correspondrait le plus à quelque chose qui peut profondément marquer une évolution, en fait. Enfin.
Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'il y a des thématiques qui peuvent être surprenantes, mais par exemple sur la raison, le fait que justement on puisse se s'interroger sur ce qui fait le propre de l'homme, ça c'est une question qu'on se pose systématiquement en philosophie. Qu'est-ce qui fonde le propre de l'homme, le fait que l'homme n'est pas un animal comme les autres, hein, et évidemment qu'il y a une différence, il s'agit pas de la contester, mais qu'est-ce qui fonde cette différence-là, c'est aussi quelque chose,
donc,
un sujet sur lequel...
Puis les différences, les animaux ont beaucoup de points communs avec nous, ont des différences, mais justement c'est toutes ces différences qui vont nous enrichir aussi, c'est ces échanges échanges entre des êtres différents. Il y a des points communs. C'est ce qui permet la communication, c'est ce qui permet qu'on peut communiquer avec eux, pas par la parole, hein, mais il n'y a pas que la parole. Et toutes ces différences qui sont vont nous enrichir. Enfin, c'est des échanges en fait. Et c'est important aussi qu'il y ait des échanges entre des êtres, des personnes, des individus qui sont différents, qui ont des points communs mais qui sont différents. Et voilà, ces différences peuvent nous apporter beaucoup, nous enrichir comme nous on peut enrichir leur vécu aussi. Enfin là, c'est vraiment des échanges entre deux individus en fait.
Oui, tout à fait. Et puis voilà, en plus la question de la vulnérabilité des animaux, même les animaux sauvages, hein, qui sont vulnérables et on le sait par rapport à la fois à la menace des écosystèmes, mais aussi par rapport à la chasse telle qu'elle se pratique, notamment dans les espaces sauvages, ce qu'on appelle la chasse en boîte aussi. Il y a une grande vulnérabilité en fait du monde animal et on ne la comprend finalement vraiment qu'aujourd'hui. Je pense c'est vraiment quelque chose qui est, enfin c'est une démarche qui est assez récente, hein, de réfléchir à la vulnérabilité des animaux par rapport à nous, le fait qu'ils soient malheureusement à notre merci et que on n'a pas justement le droit de se comporter avec l'emprise ou avec la maltraitance dont l'homme sait faire preuve, alors que ce ne sont que des êtres qui sont vulnérables. Et c'est vrai que c'est ce que ce livre dit aussi, en tout cas laisse à réfléchir là-dessus. Ouais.
Alors on va arrêter pour cette émission, pour aujourd'hui. Moi je vous propose de toute façon qu'on se retrouve très bientôt, ne serait-ce que pour peut-être des lectures d'extraits.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc je vous propose, je vous donne un prochain rendez-vous. Le plus vite possible. Et en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir accepté cet entretien.
Je vous en prie. c'est vrai que c'est pas facile parce que je vous avoue que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Et c'est vrai que dégager du temps libre où je peux être disponible, au téléphone, etc. C'est vraiment, surtout en ce moment, en plus, c'était vraiment compliqué. Mais c'est vrai que je me suis dit, ah non, faut le faire, parce que sinon, après, faut le
faire. En tout cas, merci beaucoup.
Et en plus, vous avez lu le livre, alors c'est vrai que tous les journalistes ne le font pas.
Je l'avais lu il y a longtemps, là, j'ai relu pour
préparer l'émission. Mais c'est vrai que, d'autant plus, du coup, j'étais en plus particulièrement contente. Donc, tant mieux. Et puis, je me dis, si ça peut en convaincre aussi certains de lire le livre. Et de plus avoir peur, de pas dire, ah non, je veux pas savoir. C'est vrai que ce serait une bonne chose. Voilà.
En tout cas, merci. Et puis, à très bientôt, alors.
Oui, avec plaisir. Vous me tenez au courant par mail.
D'accord. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Combien de temps encore est terminé pour ce soir? Je vous propose de vous retrouver le mois prochain et je vous souhaite une bonne soirée.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.